Je passe à la dernière partie, grande partie, les mécanismes de l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? Je vais parler d'abord très rapidement de l'angoisse d'un point de vue de ce que j'ai trouvé sur Internet sur le sujet. Alors, apparemment, c'est différent du stress parce que ce n'est pas forcément lié à un événement particulier. Le lien entre le stress et l'angoisse, c'est que souvent le stress, c'est je vais vivre quelque chose tout à l'heure, ça me stresse un peu. Mais l'angoisse, évidemment, certains événements vont faire du stress et de l'angoisse, vont provoquer stress et angoisse, mais ça peut être aussi déconnecté. Il y a un côté beaucoup plus irrationnel. Donc, à l'origine, l'angoisse est physiologique, c'est-à-dire que ça touche l'activité du corps humain. Elle se manifeste par des réactions au niveau du corps, avec notamment une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la température, des sueurs, des maux de ventre, voire des attaques de panique. Et ça finit par envoyer au cerveau un message, le message qu'il y a un danger imminent. Il y a un danger imminent, il y a un danger imminent. Même si ce danger n'est pas forcément réel. Et en réponse, le cerveau va produire du cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, quelque chose qui au départ est bon, c'est une forme de protection donnée par Dieu, et aussi de l'adrénaline, qui va nous fortifier normalement pour un passage où on est censé être plus vif pour réagir face à un danger. Et en fait, on va voir progressivement, à cause de cet excès, le monde avec des lunettes noires. C'est-à-dire que cette sursollicitation du cerveau va faire que ça va perturber notre équilibre hormonal. Et petit à petit, on va avoir une tendance à voir le monde avec des lunettes noires. C'est une sursollicitation, en fait. Et c'est un dérèglement physique qui se met en place également, avant la déstabilisation émotionnelle. Du coup, c'est vrai que si on diffuse des messages anxiogènes, par exemple, il y a des études qui montrent ça, qu'on diminue de 50% le système immunitaire des gens. Donc si on va voir nos enfants et que régulièrement on leur raconte des histoires horribles et on leur dit qu'on maintient une ambiance angoissante à la maison, on risque d'avoir des enfants beaucoup plus malades. Et si un État décide, donc j'ai pas du tout d'exemple en tête, mais un État décidait de diffuser des messages angoissants au lieu d'être rassurant, eh bien, il diminuerait l'immunité d'office d'une bonne partie de sa population. Enfin, ceux qui se laisseraient vaincre par l'angoisse. Que dit la Bible sur l'angoisse? Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 17, verset 12, « La peur n'est rien d'autre que l'abandon des secours de la raison. Moins on espère intérieurement de cette aide, plus on ressent l'ignorance de ce qui provoque le tourment. » Donc l'angoisse, c'est un corollaire d'un manque de foi, comme on l'a dit. Quand ma foi diminue, je suis tenté d'arrêter de réfléchir à ce qui est stable, et ce qui est sûr, ce qui d'habitude est digne de confiance, et qui fait que je cède à l'angoisse. Et quand je me remets à croire, l'angoisse s'atténue et disparaît. Je me remets à me dire, mais en fait, là, d'habitude, il y a ça et ça qui me rassure, mais ces éléments sont toujours là. Pourquoi est-ce que j'angoisse? L'angoisse est en lien avec l'abandon des secours de la raison. C'est ce que dit la Bible. J'arrête de raisonner et de m'appuyer sur la tête que Dieu m'a donnée. Et je me laisse aller à une divagation qui est déconnectée du réel. Dans l'angoisse, il y a aussi une forme de trahison. Je vais voir une personne qui va me dire quelque chose, et ensuite, quand je la quitte, je vais me rappeler ce que la personne a dit, et je vais me dire, mais c'est angoissant ce que la personne a dit. Et pourquoi il me semble que c'est une trahison? Parce que quand on a une relation avec l'autre et qu'on fait confiance, on se dit, en définitive, si ça m'angoisse, c'est que je fais pas assez confiance à la personne. La personne, elle m'aurait pas dit quelque chose d'angoissant. Ou si ça m'angoisse, peut-être que je peux retourner la voir pour lui demander. Mais en tout état de cause, cette personne est bienveillante. Il n'y a pas de raison d'être angoissé. Mon chef, j'ai vu qu'il a cherché à me joindre, mais j'ai une angoisse parce qu'il va peut-être me réprimander ou je ne sais pas quoi. Mais non, mon chef n'est-il pas quelqu'un de bien intentionné? Est-ce que cette idée n'est pas une idée fausse, finalement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui me tente, mais qui n'est pas la réalité? Et donc, en raisonnant, en me disant, je connais la personne, et d'ailleurs, je vais proclamer que cette personne est une personne digne de confiance et gentille, même si c'est pas tout à fait le cas, parce que nul n'est parfait, eh bien, l'angoisse, elle va disparaître. C'est une réalité qui va s'estomper et disparaître. enfin qui va disparaître, bien sûr. Après, il y a des blessures qui font qu'il faille plus de travail pour vaincre l'angoisse, bien sûr. Alors, je prends l'exemple d'Akaz au chapitre 7 d'Isaïe, le roi Akaz. Un texte qu'on lit plusieurs fois dans l'année, lors des messes. Au jour d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Résin, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ne purent lui donner l'assaut. On annonça à la maison de David, Aram a pris position en Éphraïm. Alors son cœur et le cœur de tout son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le Seigneur dit à Isaïe, sors à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils, Shear Yaouv, vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du Foulon. Tu lui diras, veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ce debout de tison fumant, sous l'effet de l'ardente colère de Résin, d'Aram et du fils de Remaliaou. Puisqu'Aram, avec Éphraïm et le fils de Remaliaou, a résolu ta perte en disant, montons contre Juda pour l'effrayer, pénétrons chez lui pour l'amener à nous, et installons-y comme roi le fils de Tavéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram c'est Damas, et la tête de Damas c'est Résin, encore 65 années, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm c'est Samarie, et la tête de Samarie c'est le fils de Remaliaou. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ce texte, il me semble, montre le mécanisme spirituel de l'angoisse. Il y a premièrement cette nouvelle angoissante, car généralement, ça contient une exagération. Il y a deux rois qui s'apprêtent à t'attaquer, et qui ont l'air très en colère d'ailleurs. Je les ai vus et fulminés. Donc il y a une forme, l'exagération c'est déjà un mensonge, parce qu'on dit une réalité qui n'est pas tout à fait vraie, et avec le téléphone arabe, ça risque de créer quelque chose de qui peut être angoissant, et qui a vraiment l'air vrai. Deuxièmement, il y a cette amplification, c'est la rumeur de guerre, ça va être à l'échelle d'un individu ou d'un pays. On parle en boucle d'un sujet qui n'est pas encore actuel, comme s'il était réel, et on lui donne une réalité. Troisièmement, ce faisant, on évacue de notre cœur les éléments qui d'habitude nous donnent de l'assurance, et on fait entrer un ennemi dans notre cœur, et ici c'est le fils de Tavéel. Et quand on est angoissé, il y a un élément de base, c'est « Seigneur, je brise contre ta croix le fils de Tavéel que j'ai dans le cœur ». C'est très simple et ça marche très bien cette prière-là, dans Isaïe 7. Et quatrième étape, désormais à chaque fois qu'une information bonne ou mauvaise nous parvient, au lieu de la confronter avec ce qui nous permet d'habitude de discerner, c'est-à-dire notre vécu, la confiance dans la vie des autres, le discernement de l'Église, les infos m'arrivent et je vais les confronter avec ces éléments stables et sûrs que je connais, au lieu d'être assuré, on va le donner au fils de Tavéel qui a fait sa maison en nous, et qui va y goûter, et qui va déclarer « Oh, cette nouvelle est angoissante ». Voilà, on a un compagnon qui nous tient compagnie, et tout ce qu'il goûte, il va dire « Ah, c'est angoissant ». Et puis, quelqu'un va nous dire quelque chose de rassurant « Ah non, ça c'est angoissant », et puis ça va nous faire angoisser encore plus. Et dans la Bible, l'ennemi spécialiste de l'angoisse, c'est, d'après moi, le royaume de l'Assyrie, A-2-S-Y-R-I-E. Ils ont une capacité prodigieuse à provoquer l'angoisse. Ils ont toujours la même méthode, d'ailleurs. C'est premièrement, en fait, un langage trompeur. Deuxièmement, et donc les deux premières étapes sont concomitantes, hein, c'est un déferlement. Le fait de nous assiéger, et de tout faire pour nous montrer leur force, en disant que notre seule option, c'est de leur faire confiance. C'est-à-dire de nous présenter une situation comme si elle était insurmontable, comme si on avait déjà perdu d'avance. Les médias d'aujourd'hui sont très forts pour retourner la situation et que les 10 arguments qu'ils vont donner montrent qu'il n'y a rien à espérer comme amélioration, quoi. Et ensuite, donc, ils nous font tomber dans ce piège où on met en place des sécurités humaines, on invite le fils de Tavéel en nous, au lieu de mettre notre sécurité en Dieu. Ainsi, en fait, on va souvent réagir vite en disant « le gouvernement a fait une nouvelle loi ou un nouveau projet de texte, etc. » Et on croit qu'il faut trouver une solution tout de suite. Et je pense que c'est un des pièges, c'est que souvent, ça vaut le coup quand il y a des choses pour lesquelles on n'est pas tout à fait en paix, d'attendre le plus possible à quelques jours de la dernière extrémité, parce que là, on aura fait du chemin, la situation aura changé, il n'y aura peut-être même plus de problème, le Seigneur nous aura déjà présenté la solution, quoi. Bon, comment briser ce cercle de l'angoisse et de traverser victorieusement cette période ? Dernière petite partie, j'en ai parlé tout du long. Je pensais premièrement Saint-Michel, dans Daniel 12, il est dit « En ce temps-là se dressera Michel le grand prince ». C'est vrai que la petite prière à Saint-Michel de Léon XIII, elle est intéressante. Il y en a plein d'autres, des dévotions à Saint-Michel ou simplement l'invoquer. Il y a le fait de s'évertuer à la foi et à l'espérance en disant « Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur, donne-moi l'espérance ». Donc la foi, ça va être le « Je crois en Dieu », ça va être un certain nombre de prières pour la foi. L'espérance, ça va être, j'avais dit, donc d'agir comme s'il n'y avait pas les montagnes qui dansaient. En disant, bah, après tout, si mon projet s'écroule, tant pis, mais au moins j'espère, je fais comme si ça allait déboucher. Et en plus, mon projet, comme ça sera un des rares projets qui va voir le jour, a priori, mon projet, il va peut-être briller par rapport à d'autres personnes qui n'auront rien fait. Il y a évidemment pratiquer les vertus, lire la parole de Dieu, vivre les sacrements, etc. Devant une angoisse, faire l'acte de foi de dire « cela n'a aucun sens ». Ça, on trouve ça dans Néhémie. Il y a des personnes qui lui envoient des messages pour dire « arrête de rebâtir la muraille » avec plein de raisons scabreuses. Et lui, il dit « ce que vous dites n'a aucun sens ». Je suis tenté par l'angoisse. J'imagine que mon agent de police, par exemple, va me verbaliser parce que peut-être que ma voiture, j'ai dépassé de 10 minutes le stationnement. « Seigneur, cela n'a aucun sens. Les agents de police sont des gens gentils. » Et j'ai payé, et j'ai juste dépassé 10 minutes, mais je m'efforce d'être court. Voilà, le Seigneur m'aide à briser l'angoisse. Donc il y a vivre dans le présent, il y a lire de manière régulière la parole de Dieu, donc j'ai plusieurs références de textes. J'ai par exemple Josué chapitre 8, Isaïe chapitre 7, j'ai Isaïe 10 verset 5 à 34, Isaïe 10, 5 à 34, Isaïe 14, versets 24 à 27, une que j'aime beaucoup, c'est Isaïe 37, 21 à 38, Isaïe 37, 21 à 38, et celle-là, elle est deux fois dans la Bible d'ailleurs, elle est aussi dans le deuxième livre des Rois au chapitre 19, Nahum, le prophète Nahum, c'est un tout petit livre qui se lit en quelques minutes. Le livre de Néhémie, au chapitre 3 et 6, c'est ceux qui rebâtissent la muraille et qui font un bras de fer avec ceux qui veulent les empêcher de rebâtir la muraille et qui donnent des messages angoissants. Et puis on a les psaumes, bien sûr, le chant en langue. Je vous ai donné ces textes-là, la plupart, c'est l'Assyrie. En fait, c'est des prières d'imprécation contre l'Assyrie. C'est des prières un peu musclées, mais ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on va dire, ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville. Et il n'y lancera pas de flèche. Le chemin qu'il a pris, il le reprendra. C'est des choses qui, en fait, spirituellement, ça dit, il restera à la porte de mon cœur, il arrêtera de pénétrer pour me faire des injections d'angoisse. Et quand on proclame ces paroles-là, il faut toujours penser, évidemment, qu'on proclame ça contre les esprits du mal, pas contre des gens réels, même si on a très envie parfois, c'est toujours contre les esprits du mal, c'est eux les ennemis. Hein. Quand on est très tenté par l'angoisse, moi en tout cas je conseille d'en faire une tous les jours, au moins, une prière contre l'angoisse, en notre période c'est nécessaire. Et quand on est très tenté par l'angoisse, ça peut être toutes les heures, on lit un texte contre l'angoisse. Et vous verrez qu'au bout de 3 ou 4, l'angoisse ne tient pas. Et puis il y a les prières au sang du Christ, les chapelets de la Divine Miséricorde. Il y a un livret que je recommande, c'est celui-là. Je pense qu'en ces temps, ce livret-là, moi, c'est une des... ça s'appelle « Dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, ça fait peur, hein. Évidemment, il saigne Jésus sur la couverture. C'est une association qui s'appelle « L'Appel du Ciel ». On trouve ça sur Internet. Et donc, c'est un petit livret, ça coûte 7 euros, plus 1 euro avec les frais de port, enfin, quand on en commande plusieurs. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est des prières au sang précieux. Je parlais de la vertu du sang qui va purifier et compléter toutes nos actions. À chaque fois qu'on fait quelque chose et on se dit, bah, c'est, ça risque d'être imparfait. Seigneur, viens, scellez de ton sang précieux ce que j'ai fait. Et on peut aussi, si on rencontre certaines difficultés, dire, Seigneur, viens recouvrir de ton sang précieux les raisons pour lesquelles j'ai telle difficulté. C'est-à-dire que je vais commettre un péché qui va faire que ces difficultés-là vont m'arriver dessus de manière régulière, comme un petit avertissement que le Seigneur me donne de moins commettre ce péché-là. Eh bien, Seigneur, viens recouvrir de ton sang précieux, c'est-à-dire viens pardonner, ce qui fait que d'habitude, je suis frappé par le bâton, je suis rattrapé par la patrouille, quoi. Le Seigneur va faire miséricorde parce qu'il est touché qu'on se serve de son sang. Et puis, dernier élément qui me paraît intéressant, c'est d'utiliser les portes du temps. Qu'est-ce que les portes du temps? En bref, ça va être le fait qu'il y a des moments, il y a des portes du temps que nous contrôlons parce que c'est des moments stratégiques de notre journée. Ça va être la première pensée au réveil, la dernière pensée avant de dormir. Ça va être le moment où je passe d'une activité à l'autre. Ce sont des portes, c'est-à-dire que c'est des moments stratégiques où quand j'ai une pensée pour Dieu, une pensée vraiment profonde, un signe de croix, un je t'aime, un notre Père ou une autre prière en fonction de l'inspiration, ou comme ce paysage est beau, merci Seigneur, eh bien ça va faire rentrer le Seigneur avec puissance dans les moments entre deux portes. C'est-à-dire entre le moment par exemple de mon réveil et le moment où je vais enchaîner d'une activité à l'autre, entre ces deux portes-là, ça va faire comme une fumée qui remplit mon temple intérieur et qui va rendre le Seigneur plus fort entre ces deux moments-là. Et ça vaut le coup de bien contrôler ces portes-là. Par exemple, la tentation au réveil de dire « Ah, j'ai pas envie de me lever », eh ben, on la contrecarre en disant « Seigneur, merci pour cette journée, je m'oblige à dire merci, même si j'ai pas envie parce que mon lit il est chaud et dehors il fait froid, il fait humide, il pleut. Et... » Mais je fais cet acte de foi-là et en faisant ça, en fait, je vais utiliser une porte du temps qui va me rendre plus facile de vaincre les angoisses pendant les quelques heures qui vont suivre, et même pendant ma journée. Ça, c'est les portes variables dans notre journée. Et puis, vous avez des portes fixes qui vont être, par exemple, des portes annuelles comme le Vendredi Saint où l'Église demande de jeûner. Par exemple, le Vendredi où l'Église dit c'est un moment où on fait mémoire, même pendant toute l'année, de la Passion de Jésus, où on va essayer d'être un peu plus sobre, au moins de penser à Jésus. Surtout pendant le carême, d'ailleurs. Ça, c'est des portes de l'année. Utilisez les portes de l'année. Hein. Utilisez les portes de la semaine. Donc, il y a deux portes majeures, je pense, et ça, c'est ce livre-là qui l'apprend. Ça va être le jeudi soir, entre 23h et vendredi, 3h du matin. C'est un moment particulier où celui qui a reçu ces prières-là, qui est un mystique, c'est un Africain, il s'appelle Barnabas. Donc, c'est reconnu par l'autorité de l'Église, hein, par Monseigneur Adeyobi, l'évêque de Barnabas. Donc, il dit que le jeudi 23h jusqu'à vendredi 3h du matin, c'est un moment où c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvrait pour assister le Christ à Gethsemane. C'est un moment où c'est comme si on était présent à côté de Jésus pour pouvoir le consoler ou pour pouvoir l'alourdir encore plus parce que je regarde toute une série pendant 4 heures sans penser du tout à Dieu, quoi. Voilà. Vous voyez, on a cette capacité de pouvoir simplement d'être compatissant vis-à-vis de lui. Idéalement, Barnabas dit de prendre au moins une heure de prière pendant ces 4 heures-là. Par exemple, entre 23h et minuit, donc ce qui rejoint l'heure de présence, qu'est-ce qu'elle a reçu ça, Marguerite Marie, je crois, ou... Jésus dit que quand on arrive à s'unir à lui pendant une heure, pendant ces 4 heures-là, toutes les semaines, le Seigneur va nous marquer de son sceau. C'est un des trucs qui fait qu'on a une assurance, mais vraiment surnaturelle, qui fait qu'on n'est plus angoissé, quoi. L'angoisse reste à l'extérieur de notre cœur. Une deuxième porte de la semaine, ça va être le vendredi entre midi et 15h. C'est le moment où Jésus était en croix, où le soleil s'obscurcit. Donc un temps de ténèbres, un peu comparable à celui de Gethsemane, où il demandait à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui. Et donc dans ce temps de ténèbres, ce qui est demandé, c'est de s'unir à Jésus. Pour ceux qui le peuvent, de jeûner bien sûr, mais sinon ça peut être simplement, je travaille et j'ai une petite pensée pour toi Jésus, je suis désolé que tu sois en croix, que tu souffres autant, que autant de gens t'insultent. Donc ça c'est quelques portes de la semaine. Une autre porte de la semaine, bien sûr, ça va être le respect d'un jour saint pour le Seigneur. Un jour où on va vraiment diminuer le rythme. Donc ça va être soit le samedi, jour du sabbat en union avec les juifs, soit le dimanche, jour du Seigneur avec la messe. Le Seigneur demande qu'il y ait une journée où on soit en off et où on lise sa parole, où on fasse des choses, je dirais, plus en lien avec le repos, pour pouvoir le laisser agir et donner un vrai souffle à tout le reste de notre semaine, en fait. Dieu va accomplir tout ce qui s'est passé et nous donner la force pour tout le reste de la semaine. Ça, c'est les portes de la semaine. Il y en a d'autres, mais bon. Et les portes de la journée, ça va être toutes les 3 heures. Il y a des portes fixes, si vous voulez faire l'expérience. Ça va être minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, etc. Et à chaque... toutes les 3 heures, en fait, il va y avoir un... Si jamais on arrive à faire au moins une petite minute d'horizon sur le changement d'heure, par exemple entre 59 et l'heure ou à l'heure pile, on va avoir une grâce particulière pour remplir de fumée les 3 heures qui viennent. C'est-à-dire pour que le Seigneur soit plus fort pendant ces 3 heures-là. On ait un coup d'avance spirituel. Voilà, c'est très simple, en fait. Hein. Donc ceux qui connaissent Luisa Picaretta connaissent peut-être... les 24 heures de la Passion, où en fait, c'est même à chaque heure que les personnes vont faire ce petit exercice de dire « Tiens, je pense à toi, Jésus, parce que là, c'était l'heure où tu as vécu ça, où tu as été crucifié. » Donc, ça, toutes ces choses-là se rejoignent. Ça, c'est les portes du temps. C'est-à-dire, je vais utiliser mon temps de manière stratégique. Mes collègues, ils vont peut-être souffrir que pendant une minute, par exemple, j'arrête de bien noter sur mon ordi, et puis je prends un petit temps, comme si je réfléchissais, pour penser à Jésus. Voilà. Et c'est d'une simplicité déconcertante, en même temps c'est exigeant, mais en même temps ça donne une vraie assise qui aide à lutter contre l'angoisse. Je vais répondre à une des questions que vous m'avez posées. Pourquoi n'as-tu pas été plus précis sur ce que veut dire la rumeur de guerre en lien avec notre période d'aujourd'hui? Eh bien, pour la période d'aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes refroidis, les chrétiens et puis les autres, nous ne protégeons plus suffisamment nos dirigeants, la population, les lois, etc. Nos dirigeants sont tentés par le mensonge, et le mensonge d'aujourd'hui, moi il me semble, c'est de dire que on a affaire à un virus qui est un corona, donc à la fois dans une famille de virus connus, et à la fois que c'est un virus complètement différent. Il aurait été fait en labo, peut-être, on ne sait pas trop. Et comme il est différent, on va interdire aux médecins d'utiliser les médicaments qu'ils avaient l'habitude d'utiliser depuis des années et des années, médicaments reconnus pour leur efficacité et pour leur prix plutôt bas. On va faire un certain nombre de mesures comme des confinements, faire porter le masque à des gens bien portants, envoyer des messages anxiogènes toute la journée, des choses en fait qui avaient été complètement déconseillées par les épidémiologistes de renom. Et on va imposer des traitements, un médicament unique, ce qu'on ne voyait jamais. Hein, habituellement, c'était pas un médicament unique qu'on imposait, un médicament nouveau et dont l'efficacité est extrêmement contestable. En somme, en fait, on va faire de l'ingérence dans les métiers des médecins, des épidémiologues et de plein d'autres membres de la population qui habituellement étaient des piliers, c'est-à-dire que c'était eux qui étaient les spécialistes pour enrayer ce genre de difficulté de rencontrer des nouveaux virus. D'un coup, on dit, eh ben, il faut plus les écouter. Voilà. Donc, on voit bien que petit à petit, l'angoisse s'installe. Puis la population se divise, et pour moi le lien, la rumeur de guerre d'aujourd'hui, c'est ça, ce sont ces choses spectaculaires, ces mesures après mesures qui sont prises pour continuer à donner lieu, à donner vie en fait à un mensonge, à donner une consistance, alors que, en voyant les choses autrement, même si effectivement il y a de la souffrance, il y a des personnes qui ont des symptômes, il y a des personnes qui meurent, et ça c'est un fait, mais habituellement on raisonne et on va voir le médecin, et on dit « d'après vous, que faut-il faire ?» Et on ne le prive pas de ses moyens, quoi. Voilà. Je renvoie notamment à Doctoton, D-O-C-T-O-T-H-O-N, ce Ce sont des personnels soignants et personnels de santé qui en ont parlé bien mieux que moi et qui témoignent de la manière dont ils vivent cette période. On trouve ça sur Internet. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.